Nos invités, Stéphanie Pérez, vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous revenez tout juste d'Ukraine. Vous étiez à Kherson, on a vu vos reportages, et puis à Kiev. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos, en charge de l'ex-URSS et du Proche et Moyen-Orient. À lire dans les Échos votre article du jour, hein, Paris coordonne l'aide d'urgence à l'Ukraine et à sa reconstruction. Et puis François Baudonnet, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Merci de participer à cette émission un peu spéciale, puisque nous serons ensemble jusqu'à 11h. On entendra théoriquement, si l'agenda est respecté, vers 9h40, l'allocution du président de la République qui est arrivé, qui répond à une interview, mais on prendra son discours à 9h40. Tout d'abord, François Baudonnet, question d'ensemble, pourquoi cette conférence à Paris? Pourquoi à Paris? Pourquoi maintenant? Et quel est le sens et quel est l'objectif? C'est d'aider l'Ukraine?
Alors l'objectif, c'est d'aider l'Ukraine. En fait, je dirais il y a deux objectifs. Il y a un objectif immédiat, c'est-à-dire déjà aider l'Ukraine à passer l'hiver. On voit qu'on est dans l'hiver. Il fait très froid en France, mais il fait évidemment très froid également en Ukraine. Et puis le deuxième objectif, c'est d'aller plus loin. C'est du moyen et c'est du long terme. C'est de travailler sur la reconstruction de l'Ukraine. Alors ça fait des mois que les Européens et les Américains d'ailleurs travaillent là-dessus. Alors, un peu en coulisses, évidemment, c'était pas tellement mis en avant parce qu'on ne peut pas commencer à parler de la reconstruction d'un pays quand ce pays est toujours en guerre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les Occidentaux. Et je crois qu'Emmanuel Macron voulait vraiment que cette conférence se tienne ici à Paris. Il y en a eu d'autres, hein, mais qu'il y ait au moins une conférence ici à Paris pour montrer le soutien de la France à l'Ukraine.
Yves Bourdillon, est-ce que quand même c'est un beau coup pour Emmanuel Macron, dont la parole n'a pas toujours et n'est pas toujours bien comprise et bien accueillie en Europe de l'Est? La dernière en date, d'ailleurs, je crois que le président s'est agacé, il dit qu'il a été mal compris, c'est quand, dans une interview, il a parlé de donner des garanties à la Russie pour sa propre sécurité. Alors évidemment, tollé en Ukraine en disant comment ça, le président français s'inquiète de la sécurité de la Russie alors que ce sont les Russes qui nous bombardent.
Oui, mal compris, c'est peu de le dire, parce qu'effectivement, c'était un incident pas que avec l'Ukraine, mais aussi la Pologne, les États baltes, et puis aussi d'autres alliés. Bon, disons que cette conférence, le fait qu'elle se tienne à Paris, avec 47 pays, organisations internationales, dont le Premier ministre ukrainien, ça permet de tourner la page de ce petit incident qui quand même, effectivement, avait beaucoup
secoué. C'est la deuxième fois, parce qu'il avait dit, il ne faut pas humilier la Russie en juin dernier.
Oui,
donc alors, ça fait deux fois qu'on dit que ce président français est bienveillant vis-à-vis de Poutine.
Effectivement, il essaye de toujours avoir une ligne qui n'est pas totalement alignée sur les alliés, mais qui du coup provoque quand même une incompréhension très forte. Parce que quand il disait qu'il faut donner des garanties à la Russie, on pouvait lui faire valoir que la Russie envahit quand même. C'est pas le moment. Voilà, c'est ce que président de la diplomatie européenne avait dit en disant c'est pas le moment d'évoquer cela. Donc lui, il avait dit après la guerre, il faudra donner des garanties, mais on ne parle pas de cela quand un pays dont l'armée commet des crimes de guerre est en train d'envahir son voisin. Et surtout, il avait rajouté, la guerre semble être provoquée par un sentiment d'insécurité du Kremlin. Donc il rentrait un peu dans le récit du Kremlin, comme quoi finalement...
Elle était agressée par l'OTAN.
Elle se sentait menacée par l'OTAN, l'élargissement et tout, qui n'est pas objectivement le cas. L'OTAN n'a pas déployé de base vers la frontière russe depuis des décennies, en fait, depuis la réunification. Donc effectivement, là-dessus, il était en porte-à-faux avec les autres alliés de Kiev. Et la conférence de Paris est un moyen un peu de tourner la page.
Alors justement, Stéphanie Pérez, vous en revenez d'Ukraine. Quelle est l'image des Français et tout particulièrement d'Emmanuel Macron auprès des Ukrainiens?
C'est ce qu'on vient de dire, ce fameux en même temps du président Macron qui ne veut pas rompre le dialogue avec Vladimir Poutine. Il est toujours extrêmement mal perçu par les Ukrainiens. Nous, à chaque fois, on nous dit « Mais pourquoi vous continuez de lui parler ? Pourquoi vous continuez de lui parler alors que tous ces massacres sont commis, alors que cette guerre du froid, elle est menée actuellement ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui a du mal à passer. En contrepartie, l'Ukraine est très sensible à cette conférence qui se déroule à Paris, parce que ça veut dire qu'on prend en considération leur détresse, leurs besoins, et qu'on va les aider, surtout parce que le froid, on en a parlé, le froid sévit actuellement de façon très très brutale, très très sévère. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de générateurs notamment, et savoir qu'on va se réunir autour d'une table pour les aider, ça c'est quelque chose qui leur fait du bien au moral.
François Baudonnet, on voit là à l'image Emmanuel Macron accueillir Elena Zelenska, la femme, l'épouse de Volodymyr Zelensky. Stéphanie Pérez disait pourquoi est-ce que Emmanuel Macron parle à Poutine, mais Volodymyr Zelensky le sait et il approuve C'est une question, hein, le fait que Emmanuel Macron continue d'avoir un dialogue avec Vladimir Poutine.
Je ne suis pas certain qu'il l'approuve, disons qu'il a fini par l'accepter, parce que c'est vrai que la position du président de la République est inchangée depuis le début, même s'il a quand même parlé beaucoup moins souvent avec le président Poutine. Donc je ne sais pas, je pense qu'il est un petit peu obligé d'accepter cette position. Et sur ce que disait tout à l'heure Yves Bourdillon sur le fait qu'il y a eu des réactions aux déclarations du président de la République, je crois que c'est effectivement très intéressant, parce que l'autre jour, Josep Borrell se trouvait à Paris.
Le
chef de la diplomatie européenne était à Paris dans le cadre d'un colloque de l'Institut de Jacques Delors. Et c'était 48 heures après les déclarations du président de la République sur le fait qu'il disait qu'il fallait donner des garanties de sécurité à la Russie. Et Josep Borrell a été extrêmement clair. C'était quelque chose de public, hein. C'était quelque chose qui n'était pas en off. Et il a dit il faut donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donner des garanties de sécurité.
Donc, exprès, comme un contre-pied à...
Et pour la Russie, on verra après. On verra plus tard. C'était très clair. Et moi, je trouvais intéressant parce que c'est la première fois que publiquement, il y avait comme ça un désaccord de position qui s'affichait entre les institutions européennes, qui sont évidemment très en pointe sur ce conflit en Ukraine, et la France et Emmanuel Macron.
Quelles sont-elles les relations entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron? Elles sont...
Pas très chaleureuses.
Pas très chaleureuses.
C'est-à-dire que c'est des relations entre chefs d'État qui savent que finalement Zelensky sait qu'il a quand même besoin de la France, ne serait-ce que pour l'apport en armement, en canon César et autres, parmi d'autres, parce qu'il y a quand même une trentaine de pays, presque tous les membres de l'OTAN, plus l'Australie, etc., qui donnent des armes. Donc c'est des relations de travail, mais elles ne sont pas particulièrement chaleureuses, à cause justement de cette perception que vous évoquiez à Kiev, que la France est un allié qui joue sur les deux tableaux, comme l'Allemagne. D'ailleurs, Macron appelle de temps en temps, il devait appeler bientôt Poutine, c'est pas encore fait, je crois, mais de même, le chancelier allemand a appelé Poutine dimanche pour dire, en gros, ça sert à rien, puisque chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit qu'il veut conquérir un territoire, ce qui montre d'ailleurs l'enfermement psychique dans lequel est le dirigeant russe. Les dirigeants italiens, par exemple, ont dit que ça ne sert à rien de parler à Poutine, il est dans sa bulle. Donc là, effectivement, il y a, vu de Kiev, il y a le fait que la France, comme l'Allemagne, sont des alliés moins fiables que les autres, mais ça depuis le début. Avant même la guerre, ils nous reprochaient de ne pas leur fournir d'armes, et ils nous disaient, il y a un an, nos armements, ils viennent des États-Unis, de Turquie et du Royaume-Uni, et la France ne nous envoie rien.
Stéphanie Pérez, quand on est en Ukraine, qu'est-ce qui est visible? On se dit, tiens, l'armée ukrainienne est armée par alors des armes américaines, mais les journalistes, l'intérêt, les couvertures, ça, ce sont plus nos proches alliés européens qui nous les fournissent.
Alors, sur le front, effectivement, on voit, c'est un peu une multinationale de l'armement. Ça, c'est évident. D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes en sourient, si on peut utiliser cette expression.
Le canon César, il est connu là-bas en Ukraine.
Le canon César, oui, ça, dès que nous, Français, journalistes français, on rencontre des militaires, on va nous parler immédiatement des canons César, de même titre qu'on va parler des fameux HIMARS américains. C'est voilà, c'est l'un et l'autre. Ça, pour le coup, la France, c'est les canons César, et ils en sont très fiers et très ravis qu'on leur ait fourni. Après, sur la couverture médiatique, c'est vrai que c'est un conflit que nous, les Européens, couvrons particulièrement. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, même si on est au bout d'un an de conflit.
Vous travaillez avec des journalistes allemands, italiens?
On se croise, oui, dans les quelques hôtels, notamment dans le Donbass, il n'y a pas beaucoup d'hôtels où on peut se croiser. Donc généralement, c'est là que toute la presse étrangère peut se retrouver. Et il y a encore beaucoup d'Allemands, d'Italiens, des Anglais. C'est un conflit qui est extrêmement suivi en Europe. Et encore maintenant, même au bout de presque un an, il y a des équipes qui se relaient toutes les semaines. Toutes les semaines, ça a l'intérêt à diminuer un tout petit peu depuis le début du conflit, mais malgré tout, il y a une présence qui reste permanente.
L'intérêt diminue un petit peu, François Bodonnet. Oui. On le voit dans les conférences de rédaction, l'Ukraine qui était toujours le sujet prioritaire, maintenant il commence à voir à disparaître de certains journaux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, évidemment, on peut le regretter, mais c'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'il y a un effet de de bascule. Là, on est avant les fêtes de Noël. On est à 9 mois du conflit. Il y a peut-être un effet de lassitude. Et puis l'idée aussi que les préoccupations des Européens, des citoyens européens, et en l'occurrence pour nous, des Français, eh bien sont plus importantes. Par exemple, évidemment, le prix de l'énergie, l'inflation de manière générale. Ça, c'est en train de prendre, je dirais, le devant de l'actualité. Et c'est un problème pour l'Ukraine. C'est bien un énorme problème pour l'Ukraine parce que la grande peur de l'Ukraine, du président ukrainien et de toutes les autorités ukrainiennes, c'est en fait que ce conflit devienne un conflit oublié, qui serait donc d'une certaine façon gelé, non seulement par le froid, sans faire de mauvais jeu de mots, mais aussi parce qu'en fait ce conflit se poursuivrait sans qu'on en parle. Et c'est pour ça que c'est important, effectivement, nous, journalistes, de continuer à en parler, parce que aussi, si les opinions publiques ne soutiennent plus ce conflit, eh bien, on se retrouvera à le président de la République en train de parler.
Et voilà, en direct, Emmanuel Macron.
Chère Olena, Madame la Première Dame et Monsieur le Premier Ministre, merci d'être là. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission européenne, chère Ursula, Mesdames et Messieurs les Premiers Ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout remercier chacun de vous et à travers vous tous les États et organisations que vous représentez pour votre présence aujourd'hui à Paris pour cette conférence. C'est une preuve tangible que l'Ukraine n'est pas seule. En effet, 46 pays, 24 organisations internationales ont répondu à l'appel de l'Ukraine et de la France pour ce moment de mobilisation internationale que nous avons choisi d'appeler « solidaire avec le peuple ukrainien ». Car la présence en nombre dans cette salle de représentants d'États du monde entier, et j'insiste bien sur ce point, et je remercie la présidence de l'ASEAN et le Premier ministre du Cambodge d'être là aussi tout particulièrement, largement au-delà de l'Europe donc, et d'organisations internationales couvrant des domaines d'une grande diversité, témoigne de la force, de l'élan et de la solidarité de la communauté internationale en soutien à l'Ukraine. Depuis bientôt 10 mois, l'Ukraine résiste avec bravoure et détermination à l'agression russe déclenchée le 24 février. Oserais-je dire cette fois-ci ouvertement, car rappelons-nous que cette agression avait débuté en 2014, sans tout à fait l'assumer à l'époque, mais que c'est en réalité près de 9 ans que les Ukrainiens ont connu de guerre, sous la violence extrême ou de guerre larvée. Je veux rendre ici hommage aux forces armées ukrainiennes qui ont repoussé l'offensive russe contre Kiev et qui sont parvenues à reprendre, grâce à leur courage et à leur abnégation, tant de territoires. Et je veux rendre hommage au peuple ukrainien dans son ensemble, qui, malgré l'horreur des crimes commis par l'occupant russe, a, dans des villes comme Mariupol, Boutcha, Irpin, Izium et tant d'autres, gardé des stigmates et gardera encore longtemps les stigmates de cette cruauté. Le peuple ukrainien, disais-je, continue de se battre avec une détermination admirable pour son pays et pour sa liberté. La reprise de Kherson à la mi-novembre démontre l'inanité des simulacres de référendum que la Russie avait organisé pour tenter d'annexer 4 régions d'Ukraine et que la communauté internationale a condamné à une écrasante majorité à l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis que l'Ukraine a repris le dessus sur le terrain, la Russie, dont les faiblesses au plan militaire ont été exposées au grand jour, a opté pour une stratégie cynique visant à détruire les infrastructures civiles en vue de mettre l'Ukraine à genoux. À chaque victoire de votre pays sur le terrain, la Russie réagit lâchement par de nouveaux bombardements des infrastructures électriques, gazières ou de distribution de l'eau, nécessaires à la survie de la population pendant l'hiver, avec un objectif clair. En réponse aux défaites militaires, semer la terreur chez les civils, tenter de briser l'arrière, faute de pouvoir tenir le front. Et ces frappes qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles, ces frappes dont la Russie avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien, constituent des crimes de guerre. Elles violent sans aucun doute possible les principes les plus fondamentaux du droit humanitaire. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. Je veux ici être clair. Dans ce contexte, c'est à l'Ukraine, victime de cette agression, de décider des conditions d'une paix juste et durable. Et à cet égard, cher Volodymyr, le plan de paix en 10 points que tu as exposé constitue une excellente base sur laquelle nous allons bâtir ensemble. Mais dans l'immédiat, l'urgence consiste à soutenir la capacité du peuple ukrainien à résister. C'est pour permettre à l'Ukraine de traverser cet hiver le plus long que nous avons souhaité organiser ensemble, cette conférence appelée « Solidaire avec le peuple ukrainien », dont nous avons souhaité que les résultats soient très concrets. Premièrement, il s'agit avant toute chose de mobiliser nos partenaires, les amis de l'Ukraine, les pays engagés dans le soutien humanitaire et les bailleurs internationaux pour fournir une aide concrète en permettant de préserver le fonctionnement des infrastructures critiques que j'évoquais et permettre à la population de tenir cet hiver. L'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé, les transports, les vêtements. Et j'espère que nos engagements collectifs seront à la hauteur des enjeux et vous aideront à faire face aux besoins les plus urgents de cet hiver. Nous apporterons une aide exceptionnelle. Pour ce qui est de la France, nous avons d'ores et déjà déboursé 151,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Nous rajouterons 48,5 millions d'euros ces jours-ci pour les priorités identifiées dans le cadre de la conférence, 27 millions sur l'urgence hivernale, le reste réparti entre les personnes déplacées, les violences sexuelles, les enfants, l'aide alimentaire, la santé mentale. Et nous allons en plus de ça ajouter une contribution exceptionnelle de 76,5 millions d'euros dans le domaine de l'électricité et de l'énergie pour l'acquisition de l'aide dans le cadre de l'initiative coordonnée avec la Commission européenne, dont Madame la Présidente reparlera dans un instant. 63 nouveaux générateurs électriques de haute puissance et plusieurs transformateurs en complément des 100 déjà livrés en novembre, mais également des financements pour l'eau, l'aide alimentaire, la santé, ce qui portera un effort total en plus de ce qui a déjà été fait à 125 millions d'euros d'aide d'urgence. Ce soutien est essentiel. Je remercie tous les pays aussi pour leur contribution annoncée à l'occasion de cette conférence. Deuxièmement, nous avons fait ensemble, cher Volodymyr, le constat que la coordination de l'aide d'urgence devait être perfectionnée et améliorée pour répondre de manière très opérationnelle aux besoins de l'Ukraine. Et nous l'évoquions hier avec le Premier ministre de Norvège, je l'ai aussi évoqué avec le Premier ministre du Luxembourg. Nous avons besoin que les choses arrivent concrètement sur le terrain et nous avons appris des conflits passés. Et donc au-delà des conférences où l'on annonce des montants, il nous faut une coordination très étroite avec des points de contact dans tous les pays pour que l'aide arrive en temps réel sur le terrain. Et à l'issue d'un dialogue étroit avec l'Ukraine et les services de la Commission européenne, que je remercie vivement pour cela au cours de ces dernières semaines, nous pouvons annoncer aujourd'hui la mise en place d'un mécanisme renforcé de coordination de l'aide internationale. Ce que tu as qualifié dimanche, cher Volodymyr, de mécanisme de Paris, s'appuiera sur le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, qui joue déjà aujourd'hui un rôle précieux, et sera étendu aux États volontaires désireux de prendre part à l'effort de soutien. Plusieurs États non européens présents aujourd'hui parmi nous ont ainsi désigné des points de contact en vue d'intégrer ce mécanisme. Et je salue particulièrement ces pays qui démontrent qu'il n'est pas besoin d'être un pays occidental pour être convaincu de la nécessité de soutenir l'Ukraine dans la durée. Ce mécanisme, centré sur l'aide d'urgence, s'inscrit ainsi en complémentarité avec la coordination de l'aide en matière d'énergie impulsée par les États-Unis dans le cadre du G7 et le mécanisme pour la reconstruction que nous avons clarifié sous présidence allemande du G7. Ces initiatives, cette conférence aujourd'hui, vient, si je puis dire, compléter et accompagner une série d'événements internationaux majeurs qui ont marqué ces derniers mois. Je pense bien sûr à la conférence de Lugano, que vous avez accueilli en juillet dernier, Monsieur le Président de la Confédération, cher Ignacio, et qui a permis à l'Ukraine de présenter son plan de reconstruction et qui a posé les principes fondamentaux de la reconstruction de l'Ukraine. Je pense à la conférence de Berlin, co-organisée fin octobre par l'Allemagne et la Commission européenne, chère Ursula et chère Annalena, qui a donné lieu à des discussions fructueuses entre experts sur la coordination de la reconstruction de long terme de l'Ukraine. Et nous nous réunirons l'année prochaine à Londres pour poursuivre cet engagement dans la durée, aux côtés de l'Ukraine. Car nous serons aussi aux côtés de l'Ukraine quand elle aura enfin mené à son terme sa lutte pour la liberté. La France entend dès aujourd'hui aussi jouer son rôle en termes de reconstruction et j'ouvrirai cet après-midi avec vous, Monsieur le Premier ministre, un forum économique en présence de près de 700 entreprises qui permettra de mobiliser celles-ci sur l'aide d'urgence et d'accompagner les investissements à plus long terme en Ukraine. Enfin, Au-delà de l'état de nos entreprises, permettez-moi de saluer la mobilisation de l'ensemble de la société française au service de l'Ukraine. Nous avons réuni le 8 décembre autour de Madame la ministre Colonna des acteurs non étatiques et notamment nos collectivités territoriales. En plus de leur accueil de réfugiés ukrainiens, 1800 collectivités ont contribué à hauteur de 9,5 millions d'euros à un fonds d'aide à l'Ukraine. Et nous les avons incités à faire de nouvelles contributions en faveur de l'aide hivernale d'urgence. Les plus hauts représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, des collectivités territoriales et des ONG françaises sont aujourd'hui avec nous dans cette salle et je les en remercie. C'est l'équipe de France qui est se faisant mobiliser et je sais que plusieurs pays présents autour de la table fonctionnent de la même manière et qu'au-delà des engagements du jour apportent un soutien au quotidien extrêmement concret et je veux les en remercier. Voilà ce que je voulais dire en ouverture de cette conférence, cher Volodymyr. Et je veux ici te dire que tu as à Paris des chefs d'État, de gouvernement, aux côtés de ton épouse et du Premier ministre et de plusieurs de tes ministres, qui sont pleinement mobilisés, qui ont la volonté de se battre et d'être solidaires au peuple ukrainien. Et jusqu'au dernier jour et à la dernière minute, de ne rien lâcher de ce soutien. Car le combat que vous menez est un combat pour votre liberté, votre souveraineté. Mais c'est aussi un combat pour l'ordre international et pour notre stabilité à tous. Cher Volodymyr, j'ai l'honneur maintenant de te passer la parole et merci d'être avec nous.
Merci Emmanuel. Monsieur le Président, Madame la Présidente von der Leyen, Premier ministre de Hussein, peut-être Premier ministre Fiala, chers dirigeants des institutions, Premier ministre Schmigal, chère Olena et tous les présents, ministres présents et les ambassadeurs, je suis heureux que nous sommes réunis au sein de cette nouvelle conférence. Et nous sommes réunis dans le désir de vaincre la terreur énergétique. Je me rappelle lorsque Emmanuel Macron m'a téléphoné en proposant d'organiser ce format. Il y a déjà eu des premières frappes. La terreur des drones iraniens était déjà présente en essayant de provoquer la catastrophe humanitaire dans tous les pays. Et la Russie avait besoin de terroriser l'Ukraine et tout le monde démocratique. Et en réponse, nous avons... Nous faisons tout pour contrer le blackout et la terreur énergétique. Qu'avons-nous aujourd'hui? L'Ukraine s'est dressée contre des centaines de frappes russes d'intensité variable dans notre secteur de l'énergie. Mais maintenant, la plupart de nos centrales électriques sont endommagées et détruites par les bombardements. Toutes les centrales hydrauliques, les centrales thermiques. Imaginez-vous ce que cela signifierait dans vos pays. L'une des frappes russes a provoqué l'arrêt de toutes les unités nucléaires de nos centrales nucléaires. Tout a marché et heureusement, seule la restauration rapide superficielle des installations énergétiques détruites par les frappes russes nécessite au moins 1,5 milliard d'euros. Chaque fois, après chaque frappe russe, nous essayons de restaurer la capacité technique de produire et fournir l'électricité. Pourtant, chaque jour, nos ingénieurs en énergie doivent déconnecter des millions d'Ukrainiens de l'approvisionnement en raison d'une grave pénurie d'électricité dans l'ensemble du système électrique. À l'heure actuelle, environ 12 millions de personnes dans presque toutes les régions de Kiev sont déconnectées de l'approvisionnement. Malheureusement, il s'agit d'une situation type et chaque jour, nous nous attendons à de nouvelles frappes russes, ce qui peut considérablement augmenter le nombre de pannes. C'est pour ça que les générateurs et les alimentations sans interruption sont devenus aussi nécessaires en Ukraine que les véhicules blindés et les gilets pare-balles. C'est le seul moyen de protéger les gens ordinaires et le système social dans les conditions du pari russe sur le blackout. En fait, un système... Un système parallèle de production d'énergie décentralisée est en cours de construction en France et en Ukraine. Il est construit très rapidement dans toutes les régions, mais il y a des milliers d'entreprises ukrainiennes, des petites et moyennes entreprises d'équipements sociaux continuent de fonctionner grâce à des générateurs. Ainsi, les hôpitaux fonctionnent sur des générateurs. Grâce aux générateurs, des centaines de milliers d'emplois ont été déjà sauvés. La connexion Internet, les télécommunications, dans le pays, plus de 5000 points d'invincibilité ont été ouverts. C'est des lieux où les gens peuvent se réchauffer, charger leurs appareils. Et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui aident déjà l'Ukraine dans l'équipement, avec l'équipement approprié pour maintenir ce niveau de stabilité énergétique dans notre État et pour notre société. Néanmoins, la tâche clé est de préserver le principal système énergétique de l'Ukraine, de garantir son fonctionnement stable malgré toutes les tentatives russes de faire de l'Ukraine l'endroit le plus sombre de l'Europe. C'est pour ça que ce format est nécessaire. Ici et maintenant, nous devons nous mettre d'accord sur des choses spécifiques qui n'aideront pas seulement l'Ukraine à survivre à l'hiver, mais qui pourront aussi le plus vite que possible aider toutes les forces démocratiques en sorte que les forces antidémocratiques et anti-européennes, en premier lieu la Russie, prévenir les catastrophes et à protéger les citoyens. Nous avons besoin de plusieurs catégories d'équipements, les transformateurs, équipements pour la restauration des réseaux à haute tension, turbines à gaz et groupes motopropulseurs à piston à gaz. Les représentants ukrainiens présents à la conférence peuvent vous informer de toutes les spécifications technique de cette demande. En outre, notre système énergétique a besoin au moins jusqu'à la fin de la saison de chauffage en Ukraine d'une aide d'urgence du système pour le système énergétique de la part du système énergétique européen, c'est-à-dire l'importation d'électricité des pays de l'UE en Ukraine. Pour que cela soit possible, nous avons besoin d'une solution de l'Euronet des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité pour augmenter la capacité à importer. Encore une fois, tous les détails techniques seront présentés par nos représentants d'État. Cela coûtera à peu près 800 millions d'euros. C'est très important, mais c'est plus important. Mais le prix est moindre que le coût de ce blackout. Et c'est pour ça que j'espère que ces décisions seront prises dans le cadre de cette conférence. Les missions de l'AE qu'il faut envoyer partout dans les centrales en Ukraine. Nous demandons d'envoyer les missions comme ça partout en Ukraine parce qu'il y a la stabilité de toutes nos régions qui dépendent de ça. Ces missions de l'UE seront un facteur sécuritaire et garantie tirons la sécurité et le contrôle de la pointe de l'Europe. À cause de la destruction des centrales électriques par les terroristes, sont obligés d'utiliser plus de gaz cet hiver que prévu. En conséquence, nous avons besoin d'acheter environ 2 milliards de mètres cubes de gaz. C'est aussi un élément nécessaire de notre stabilité qui a besoin de votre leadership. Un autre résultat pratique de cette conférence pourrait devenir un accord sur le financement d'un projet dont Emmanuel a commencé déjà à parler de l'achat de l'aide pour l'Ukraine. Cela peut ne pas sembler très important, mais 50 millions de ces lampes pourront permettre d'économiser environ 1 gigawatt d'électricité, étant donné que le déficit moyen de notre réseau électrique est d'environ de 2 gigawatts et demi. Et nous avons besoin aussi d'un mécanisme spécial permanent de coordination des efforts, le mécanisme de Paris, ce qui permettra de donner des réponses rapides et efficaces à tous les défis instaurés par la terreur énergétique russe. Jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons disposons pas encore d'un système de défense antiaérien aussi moderne pour abattre 100% de missiles et des drones russes, mais nous pourrons créer un système de prise de décision qui peut complètement priver la Russie de sa de son impact de l'impact de cette tactique terroriste. Lorsque la stabilité énergétique de l'Ukraine sera garantie pendant toute cette période hivernale, cela pourra empêcher les vagues d'immigration massive dans votre pays. Et aucune frappe, aucune panne d'électricité, aucune frappe armée ne pourra aider la Russie à réaliser ça. La Russie devra réfléchir à sa manière d'arrêter cette agression. Et je crois que ce sera entre nos mains, c'est entre nos mains, entre vos mains. Je vous remercie encore, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette conférence. J'espère vraiment des décisions concrètes. Merci, gloire à l'Ukraine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Volodymyr. Merci à toi pour ces mots et la clarté des messages passés et des besoins. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Premier ministre d'Ukraine, cher Denis.
Доброго дня, високоповажний пане президенте Еммануель Макрон.
Bonjour, cher Monsieur le Président Macron, chère Madame Ursula von der Leyen, cher Monsieur le Président d'Ukraine, cher Premier ministre, les vice-premiers ministres, cher chef du Parlement, président du Parlement, cher ambassadeur, ministre, chers collègues, représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs, je demande de mettre en route la vidéo en accompagnement de mon discours, si possible.
Plus
de 9 mois se sont écoulés depuis le début de l'invasion à grande échelle des troupes russes sur le territoire. L'Ukraine, c'est le plus difficile mois de l'histoire de l'Ukraine moderne. Au cours de ces 9 mois, notre peuple a connu tant de chagrins, de larmes, de souffrances à Boutcha, Borodyanka, Izium et dizaines d'autres villes. Le monde entier a vu que l'armée russe c'est une armée de tortionnaires et des violeurs et des terroristes. Mais ces derniers mois, nous ne nous avons pas brisés, le peuple ukrainien. Nous avons défendu Kiev. L'ennemi n'a pas réussi à prendre notre capitale, ni en 3 jours, ni en 3 mois. Il ne la prendra jamais. Nos troupes ont déjà libéré plus de la moitié de tous les territoires que la Russie a réussi à saisir après le 24 février. Les forces armées ukrainiennes ont libéré les régions de Kiev, de Tcherniv, Soumy et quasi totalité de Kharkiv. Voici devant vous, sur l'écran, le nombre de missiles que la Russie a tirés sur un seul arrondissement de Kharkiv. Et ce n'est qu'une partie. Nous avons libéré le seul centre régional que la Russie a pu capturer. Il s'agit de Kherson. Mais notre armée avance et ne s'arrêtera pas jusqu'à la victoire complète. Le monde entier nous aide et nous soutient dans notre effort. Nous remercions tous les partenaires qui nous aident et nous soutiennent tous les jours. Président de France Emmanuel Macron, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le président vice-président de la Commission européenne, Monsieur le président américain, Premier ministre, chancelier fédéral de l'Allemagne, Premier ministre de Canada, Chrystia Freeland, nos voisins, nos partenaires constants et fidèles. Les représentants de Pologne, de Lituanie, de l'Estonie, Premier ministre de Tchéquie qui fait partie de notre Assemblée aujourd'hui, Premier ministre de Slovaquie. Je remercie tous les gouverneurs, tous les partenaires qui nous assurent cette aide et le support financier et dans notre défense. Vous avez vu la souffrance des Ukrainiens. Vous avez vu les destructions que la Russie nous a apportées. Mais vous avez vu également les Ukrainiens courageux et inébranlables qui se sont battus et se battront pour leur terre et la liberté. Grâce à l'aide de nos partenaires, nous avons réussi à infliger une défaite à l'armée russe sur le champ de bataille. Le Kremlin comprend qu'il est incapable de s'emparer de l'Ukraine comme il l'a rêvé le 24 février. Depuis l'automne, les troupes russes ont intensifié leur attaque contre le système énergétique ukrainien. Leurs politiciens et propagandistes disent ouvertement que leur objectif, c'est de laisser les Ukrainiens sans chauffage, sans lumière. Ils croient qu'ils vont nous briser et nous forcer à nous soumettre et à capituler. Les frères pour nous. La Russie n'a jamais compris et ne comprendra jamais l'Ukraine libre et les Ukrainiens libres. La Russie veut nous torturer et nous terroriser. Ils pensent qu'elle peut nous briser de cette façon. Mais les Ukrainiens tiennent courageusement le coup, continuent à travailler et à aider leur État, leurs soldats, les forces armées. La vie des millions d'Ukrainiens est désormais une lutte et un courage quotidien. Le 24 novembre, un nouveau coup a été porté à notre système énergétique, mais ce terreur énergétique n'a pas fait paniquer les Ukrainiens. La veille des attaques à la roquette, cette petite fille était gravement malade. À la suite des bombardements, sa maison a perdu l'électricité, le chauffage et l'eau, et ses parents l'ont amenée à l'endroit le plus proche où il y avait de la lumière, une station-service, pour qu'elle reçoive les soins médicaux. Est-ce que vous voyez la peur, la panique dans ses yeux de cette fille. Et voici devant vous Igor. Il dirige un cours en ligne pour les étudiants parce que la lumière a été coupée chez lui, mais il ne s'était pas senti désemparé. Il s'est rendu au poste de police pour continuer les cours pour les étudiants. Ces trois chirurgiens de Lviv effectuaient une opération très compliquée au moment même que la Russie a bombardé notre système énergétique et l'hôpital s'est retrouvé sans alimentation électrique. Et ce jour-là, plusieurs médecins ont non seulement opéré de cette manière, mais ils ont également mis au monde des bébés. Et c'est ainsi que naissent les Ukrainiens forts et libres maintenant. Les Ukrainiens ne seront pas brisés par la terreur russe. Nos gens sont courageux et les émotions de notre peuple ont été mieux décrites par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Il s'est tourné vers la Russie et il a dit « Sans gaz ou sans vous ? Sans vous. Sans électricité ou sans vous ? Sans vous. Sans eau ou sans vous ? Sans vous. Le froid, la faim, l'obscurité et la soif ne sont pas aussi effrayants et mortels pour nous que votre soi-disant amitié et fraternité. Mais l'histoire remettra tout à sa place. Ils nous auront du gaz, de la lumière, de l'eau et de la nourriture, et ceci sans vous. Pendant deux mois d'attaques systématiques avec les missiles et des drones, la Russie a réussi à endommager près de 50% du système énergétique ukrainien. Il n'y a pratiquement aucune installation énergétique qui n'a été attaquée. 45 sous-stations différentes sont sans tension. 87 lignes électriques à haute tension s'étendent sur des milliers de kilomètres ont été endommagées. Et les centaines de missiles russes essayaient de détruire le système énergétique et nous priver de lumière. Néanmoins, notre système conserve son unité et nos techniciens travaillent 24 heures sur 24 pour faire toutes les réparations. Les réparations qui demandent des mois, ils les font en quelques semaines et parfois en quelques jours. Et grâce à leur professionnalisme, les Ukrainiens ont de la lumière au moins pendant plusieurs heures par jour. Nous comprenons que la Russie poursuivra ses attaques terroristes. Ils ne renoncera pas à ses intentions de détruire notre système énergétique. Ils veulent nous plonger dans l'obscurité. Mais pour nous protéger, nous devons nous protéger contre les missiles aériens. Au cours des derniers mois, nous avons reçu des systèmes de protection anti-aérien. Nous demandons à nos partenaires d'augmenter la fourniture des systèmes de défense aérienne, car ils protégeront les civils. Et les fournir des systèmes modernes de défense aérienne est le véritable humanisme. Grâce à ces défenses aériennes, nous pourrons fermer le ciel et empêcher la Russie de causer encore plus de morts en Ukraine et de souffrances pour l'Ukraine. La deuxième chose dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'une assistance pour la restauration et la réparation rapide des infrastructures critiques et des équipements énergétiques endommagés. Nous achetons et recherchons des équipements énergétiques dans le monde entier. Nous demandons à la communauté internationale d'aider l'Ukraine dans cette affaire. Nous demandons de l'aide pour des millions d'Ukrainiens qui continuent à se battre et à rester en Ukraine. Au moment où le Kremlin a décidé d'attaquer et de détruire l'Ukraine, il a commis une erreur fatale. Ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont fait un mauvais calcul en tout. Ils ont mal calculé la puissance de l'armée ukrainienne, sur le courage du peuple ukrainien, sur la stabilité de l'État ukrainien et la volonté des dirigeants politiques de lutter contre l'agresseur avec son peuple. Je suis convaincu que leur calcul de nous plonger dans les ténèbres échouera également grâce à l'aide de nos partenaires et nos amis du monde entier. Nous survivrons cet hiver. L'intention de la Russie de plonger l'Ukraine dans l'obscurité est un défi pour le monde civilisé. Nous ne doutons pas que le monde de l'Europe ne permettra pas à ces plans terroristes sanguinaires de la Russie de se réaliser. Le gouvernement ukrainien et le secteur d'énergie font tout leur possible pour que chaque famille ukrainienne ait la lumière et le chauffage. Nous nous préparons à différents scénarios, dont l'un pourrait être l'absence durable de lumière ou de chaleur. À l'initiative du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, notre gouvernement a lancé des points de résilience dans toute l'Ukraine. Il s'agit des locaux où les Ukrainiens peuvent se réchauffer, charger leurs accumulateurs, leurs batteries. Et il y a près de 5000 points de résilience qui assurent la lumière, le chauffage et l'électricité aux Ukrainiens. Mais il nous en faut beaucoup plus. Il nous en faut près de 30 millions pour assurer cette aide aux habitants. Et nous attendons de nos partenaires internationaux qu'ils contribuent à fournir ces îlots de résilience ukrainiens. Nous sommes reconnaissants à nos alliés pour leur aide militaire, financière, humanitaire et autres. Le soutien financier apporté par les États-Unis et l'Union européenne a permis à notre gouvernement d'aider les millions d'Ukrainiens qui souffrent à cause de la guerre. Les cargaisons humanitaires en provenant du monde entier aident nos populations qui sont envoyés dans des conditions extrêmement difficiles. L'aide à l'équipement énergétique permet de restaurer plus rapidement le système. En Ukraine, les noms des dirigeants de tous les pays qui nous aident à survivre et à gagner aujourd'hui figureront certainement sur les pages des manuels d'histoire ukrainien. Notre peuple n'oubliera jamais l'aide que vous avez apportée à l'Ukraine au moment le plus difficile de notre histoire moderne. Nous apprécions ce que les dirigeants européens disent aux Ukrainiens aujourd'hui. Nous sommes avec vous aussi longtemps que cela sera nécessaire pour votre victoire. Pour nous, ce sont les mots de vrais amis et frères, et ils signifient beaucoup. Nous leur en sommes reconnaissants. Au cours des 9 derniers mois, les Ukrainiens et l'armée ukrainienne ont prouvé qu'ils n'abandonneront jamais. Nous avons prouvé que nous étions capables de surmonter tous les défis extraordinaires. Nous ne doutons pas un seul instant que la lumière vaincra les ténèbres partout. Les villes ukrainiennes brilleront d'une nouvelle force. Nous ne doutons pas que nos amis et alliés dans le monde entier nous aideront dans cette entreprise. La période la plus sombre précède l'aube. Nous aborderons cette aube d'une nouvelle Europe avec nos amis et alliés côte à côte. Rappelons-nous que la lumière vainc toujours les ténèbres. Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont du côté de la lumière aujourd'hui, à tous ceux qui aident l'Ukraine aujourd'hui. Nous ferons front ensemble et nous gagnerons ensemble. Et après cela, nous reconstruirons ensemble l'Ukraine renouvelée. Gloire à l'Ukraine.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je donne maintenant la parole à Madame la Première Dame de l'Ukraine, Madame Olena Zelenska. Chère Olena.
Chers amis, je vous salue et je remercie le président Macron pour l'organisation de ce forum.
Toutes les personnes présentes ici sont parfaitement au courant de ce qui se passe en Ukraine. Le Premier ministre vient de nous présenter beaucoup d'images. Cela se trouve toujours sur les nouvelles et cela reçoit la condamnation de toute personne sensée. Mais comment ressentir tout ce que cette guerre fait à notre pays et à nos gens? L'intervention russe a sorti à un niveau des chiffres impossibles à concevoir. L'entendement se dérobe. C'est bien plus important que l'expérience de toute personne sur cette planète. Comment ressentir ce que signifie plus de 4000 missiles qui ont touché les villes et les communautés ukrainiennes? 4000. Ou bien qu'est-ce que 50 000 missiles qui ont été lancés par les occupants en une seule journée contre notre pays? Qu'est-ce que 2719 établissements éducatifs qui ont été détruits ou touchés? Comment ressentir plus de 1100 établissements médicaux qui ont été détruits ou fortement touchés, qui ont été frappés par les tirs de chars d'artillerie? Pouvez-vous imaginer la moitié de la France privée d'électricité pour 30 et plus d'heures? Et bien que tout cela est impossible à ressentir dans les sentiments d'une seule personne, on peut déjà dire avec certitude comment l'Ukraine tient malgré tout. Nous avons tous réussi à devenir plus grands que nous n'étions avant cette guerre. Pour nous protéger, les Ukrainiens ont réussi à devenir plus grands que cette terreur. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. L'exemple d'un homme qui ne savait même pas ce qu'il était capable de faire pour sauver d'autres personnes. L'exemple d'un Ukrainien sur lequel on peut comprendre et ressentir l'exemple des millions. Il s'appelle Yuri Kuznetsov. Il travaille dans l'hôpital municipal de la ville d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine. Il relève du département de traumatologie et la nuit du 6 mars, il a pris son travail à l'hôpital et il est resté jusqu'en septembre. Il a travaillé jusqu'à ce que l'Izium ne soit libéré de l'occupation russe. En rentrant dans la ville, les militaires russes ont frappé de manière constante la réanimation, les salles d'opération, les services d'urgence ont été détruits dans ces frappes, tout comme des centaines d'autres sites de cette ville. Mais l'hôpital a continué à travailler. Dans la cave, sous les tirs constants, dans les conditions inhumaines et terribles, Yuri et d'autres collaborateurs ont vécu à l'hôpital, dans ce qui est resté de cet hôpital. En l'espace de 6 mois, Yuri est devenu chirurgien. Et je rappelle qu'il était dans la traumatologie. Et il est devenu même un sage-femme. Dans les caves de cet hôpital, il a fait naître 9 bébés. Et des vies, des centaines de personnes ont été sauvées grâce à une personne qui est devenue plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Yuri a été amené à opérer, à sauver ceux qui ont été blessés ou qui ont sauté sur les mines. En quittant Izium, les occupants ont pillé l'hôpital, tous les équipements qui étaient encore valides, les lits dans le département Covid. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris même des prises, des fils électriques et même des cuvettes dans les toilettes. Heureusement qu'ils n'ont pas pris ce qui était le plus précieux dans cet hôpital, ce médecin. Ce n'est qu'un exemple d'un hôpital, d'une personne qui, d'un médecin banal, est devenu un sauveteur pas banal pour des centaines de personnes. L'Ukraine a réussi à tenir et se défend justement grâce à des gens comme ça, les gens qui sont devenus plus grands qu'ils ne pouvaient même l'imaginer. C'est la source de l'invincibilité ukrainienne. Ce sont nos combattants dans les forces de défense, ce sont nos médecins, nos énergéticiens qui restaurent l'électricité après les frappes, ce sont nos entrepreneurs qui ont réussi à opposer à l'obscurité russe le bruit des générateurs et dès lors la vibration d'un pays vivant. En l'espace de ces 10 mois de guerre à grande échelle, l'Ukraine est devenue plus grande plus grande que c'était son image avant. Et je pense que la France aussi a ce sentiment. Grâce à la résistance ukrainienne et à votre grand soutien, vous pouvez aussi prendre ces paroles pour vous et sentir comment chacun et chacune d'entre vous devient plus grand. Mesdames et messieurs, des millions de personnes aujourd'hui pensent à comment faire plus pour protéger la liberté et restaurer la paix. Je fais partie de ces personnes. Autant que je peux, j'accumule l'aide pour l'Ukraine. Autant que je peux, j'appelle à l'action. Autant que je peux, je fais revenir à l'Ukraine ce que la guerre lui prend. Je vous invite à vous rejoindre, à nous rejoindre dans ces efforts. Je sais que vous, entre vous, il y a aujourd'hui les représentants des entrepreneurs, de la société civile, des maires des villes de France. La France est déjà parmi les leaders du monde global pour la protection de l'Ukraine. Et nous serons toujours reconnaissants pour cela. Mais le temps est venu pour tout le monde de devenir plus grand. Je vous ai parlé de l'hôpital à Izium et c'est mon objectif aujourd'hui, aider à restaurer cet hôpital. C'est un hôpital de la région pour plusieurs districts qui recevait tous les ans près de 150 000 personnes. Aujourd'hui, il faut relever cet hôpital des ruines. Et c'est pour cet objectif que je crée ma fondation, Olena Zelenska Foundation. Cette fondation, qui ensemble avec d'autres projets, aide à restaurer l'Ukraine. Notre objectif est d'aider la vie à vaincre. Ma fondation aide les habitants pacifiques, surtout sur le territoire déoccupé, qui ont été très fortement détruits. Nous voulons rendre la normalité à la vie. Nous apportons la chaleur et l'espoir. J'ai un objectif très précis de ma visite à Paris. Je suis ici pour Izium, pour l'hôpital municipal d'Izium. Je vous invite à aider cet hôpital. C'est l'objectif principal de ma fondation, devenir plus grand que ce que vous étiez avant. Rejoignez-nous dans cette grande victoire, rejoignez-nous dans cette tâche de restauration. Je vous remercie de votre attention, je remercie le président Macron pour cette possibilité de m'adresser à la société. Je vous remercie encore une fois tous, que la paix revienne plus vite, que le plus vite possible tous les Ukrainiens soient libérés de l'occupation russe. Je vous remercie.
Allez, on prend la parole. Voilà, on récupère, bienvenue de retour sur le plateau de France Info. Yves Bourdillon, ce qui est incroyable, c'est que ce soit le Premier ministre ou que ce soit tous les intervenants, on a parlé, on s'attendait à ce que les Ukrainiens appellent de l'aide médicale, de l'aide alimentaire, de l'aide militaire, il y en a été question, mais il a surtout été question d'aide d'énergie, de manque d'énergie, d'électricité en Ukraine.
Oui, l'électricité, c'est le mot-clé de toutes ces interventions, parce que tout simplement, tout en découle. C'est-à-dire que dans les 5 secteurs prioritaires qui ont été cités, les transports, l'eau, bah, il faut de l'électricité pour faire tourner les systèmes. L'alimentation, pareil, il faut de l'électricité pour faire tourner les usines. Tout est autour de l'énergie. Pas que l'électricité, d'ailleurs, un petit peu aussi, il faut du carburant. Donc c'est le mot-clé de toutes ces interventions, avec aussi coordination. Il faut retenir qu'ils ont évoqué, tant Zelensky que Macron ont évoqué la nécessité de bien coordonner l'aide pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour qu'il n'y ait pas de carences.
Parce que souvent, depuis l'Ouest, on appuie sur un bouton en imaginant que l'aide va arriver à bon port et elle se perd, c'est ça ?
Soit elle se perd, soit en fait, si on ne se coordonne pas avec un autre donateur, on va donner deux fois la même chose alors que ça fait redondance. Donc il y a cet aspect-là, mais c'est surtout l'énergie. Et puis alors, vous avez évoqué l'aide antiaérienne. C'est vrai que quand on discute avec des Ukrainiens, on leur dit « Quelle aide civile avez-vous besoin ?» Et ils répondent « Oui, de l'aide civile, oui, mais c'est des systèmes antimissiles. » Ils répondent militaire en disant, d'ailleurs la phrase, je crois d'ailleurs, c'était l'humanisme. Le Premier ministre a dit l'aide
antimissile. Il me semblait qu'ils en avaient.
C'est fameux, une aide humanitaire.
Ces fameux missiles antimissiles, ils en ont, puisque c'est le fameux qui serait tombé côté polonais. C'était un missile antimissile ukrainien.
Ils en ont, mais ils estiment qu'ils n'en ont pas assez, les drones tueurs iraniens, là il y en a 2000 qui risquent d'arriver, eh bien ils saturent assez facilement l'espace aérien. Donc il faut plus de missiles antimissiles.
Alors Stéphanie Pérez, vous en revenez d'Ukraine, vous témoignez, l'électricité, c'est la fée électricité quand elle n'est pas là, c'est le point fort et c'est ce dont souffrent beaucoup les civils ukrainiens.
Oui, l'électricité, c'est vraiment ce qui manque. C'est la priorité des Ukrainiens. En ce moment, le président Zelensky l'a rappelé, la plupart des centrales électriques ont été endommagées par des frappes. Et tous les énergéticiens qui travaillent à la reconstruction de ces centrales ou de tous ces transformateurs savent qu'ils vont réparer pour une semaine, deux semaines, et que de toute façon, il y aura de nouvelles frappes qui redétruiront ce qu'ils viennent de réparer. Donc c'est un cercle sans fin. Et en attendant, il y a des 12 millions... d'Ukrainiens qui restent encore privés d'électricité. Nous, on l'a vu à Kiev, par exemple, parce que la grosse centrale qui alimente Kiev est vraiment, vraiment endommagée. Ce qui fait que les autorités sont obligées de délester, d'économiser l'électricité. Et le soir, alors il faut rappeler qu'en ce moment, en plus, il fait nuit très tôt. Il fait nuit à partir de 16h30. On est dans le noir total. Le soir, vous avez des milliers d'habitants qui ne savent pas quand ils rentrent chez eux si, oui ou non, ils vont avoir de l'électricité. Dès qu'il y a une heure de courant, on se dépêche, on charge les téléphones, on prépare à manger, on fait chauffer de l'eau pour faire une petite toilette rapidement le soir. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est clairement la priorité des Ukrainiens. Il faut bien se rendre compte que le président Zelensky demande des générateurs. Quand vous circulez dans les villes ukrainiennes, il y a deux bruits qui vous frappent le plus. Il y a celui des explosions, des détonations, ça c'est quasiment continu. Et il y a le bruit des générateurs. Tous les magasins, les hôpitaux, les boutiques, tout fonctionne avec des générateurs. Et vous imaginez, l'Ukraine, c'est un pays qui est immense. Il y a des millions d'habitants qui ont besoin de ces générateurs, qui ont besoin de courant pour pouvoir vivre à peu près normalement.
François Bedonnet, et c'est vrai que le président a rappelé qu'au fond, ces bombardements civils, il a dit qu'ils étaient lâches car leur objectif, c'était de masquer les échecs militaires de la Russie. Comme elle ne réussit pas sur le front, elle va pilonner de façon lâche et aveugle l'arrière pour infliger des souffrances au peuple. Il parle de crimes de guerre qui ne resteront pas impunis, a-t-il dit.
C'est ça. Et en fait, ils vont pilonner les infrastructures énergétiques. Et d'ailleurs, le président ukrainien, qui jusqu'à présent parlait d'une arme énergétique, là, il a parlé à plusieurs reprises de terreur énergétique. Et c'est vrai que ce qui peut... En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, depuis le début de cette conférence, on parle de sommes relativement réduite. On est sur des centaines de millions d'euros, ce qui est quand même assez peu quand on voit, par exemple, les besoins militaires. Ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros. Là, on est sur des centaines de millions d'euros.
150 millions.
C'est beaucoup moins, mais c'est effectivement extrêmement important, en particulier pour les aspects énergétiques. Et l'Ukraine a demandé à la France 50 millions de lampes LED, oui. Vous savez, ces petites lampes qui consomment beaucoup moins que les grosses lampes. Et effectivement, le président Zelensky l'a dit, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet de faire des économies.
D'un gigawatt.
D'un gigawatt, ce qui est la moitié du déficit qu'ils ont chaque jour en termes d'électricité, puisque Stéphanie le disait, leur réseau électrique est évidemment très impacté. Donc en fait, ça paraît peu, mais c'est évidemment important, essentiel, même au quotidien des Ukrainiens.
Alors le Premier ministre ukrainien a parlé de ces fameux points électricité où les habitants se retrouvent pour recharger leur téléphone portable. Justement, comment vit-on sans électricité? Vous voyez ce reportage à Kiev de Marine Mulset.
Bougies, charbon et poêle en bois. Plongé dans l'obscurité, ce restaurant du centre-ville de Kiev fait tout ce qu'il peut pour continuer à accueillir ses clients pendant les fréquentes coupures de courant qui touchent la capitale ukrainienne. Les clients et le personnel doivent s'adapter.
Le restaurant est situé dans un bâtiment du 19e siècle. À l'époque, il n'y avait ni électricité ni chauffage dans ce bâtiment. Alors c'est comme si nous avions remonté le temps. Le bâtiment lui-même nous aide en quelque sorte à fonctionner sans électricité. Ce poêle est authentique, il fonctionne avec du bois de chauffage.
À quelques kilomètres de Kiev, dans les rues enneigées de Borodyanka, des tentes chauffées par des poêles accueillent de nombreux Ukrainiens, privés eux aussi d'électricité, et contraints de trouver de nouvelles solutions pour se réchauffer et faire cuire des plats chauds à l'approche de l'hiver.
L'électricité est coupée pendant 4 heures, parfois pendant 6 heures. Quand l'électricité est coupée, je viens ici et j'allume ces cuisinières. Alors les gens viennent ici pour se réchauffer. Ceux qui ont des enfants viennent souvent ici pour leur préparer à manger. Après 4 à 6 heures, les gens et les enfants ont faim et soif et ont besoin de chaleur.
Vladimir Poutine a assuré ce jeudi que la Russie poursuivrait ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Et Stéphanie Pérez, quand vous étiez à Kiev, vous alliez vous de recharger votre téléphone. Comment peut-on travailler parce que quand on n'a pas d'électricité, on se dit on n'a pas Internet non plus.
Ah, c'est très compliqué. Alors c'était pour nous très compliqué, surtout dans la région de Kherson, parce que quand les Russes ont quitté Kherson, ils ont pilonné toutes les structures énergétiques et les structures en eau, l'alimentation en eau. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvés nous comme la population privée d'électricité, privée d'eau. Donc on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire que on s'est on allait sur la place centrale, notamment de Kherson, où les Ukrainiens, qui sont très rapides pour quand même trouver des solutions d'urgence, les Ukrainiens, les autorités avaient installé une antenne satellite et tout le monde arrivait pour pouvoir essayer de se connecter au satellite et pouvoir passer quelques coups de fil. Et notamment à Kherson comme à Kiev, on voit effectivement ces grandes tentes qui sont des îlots de résilience, comme les appelle le président Zelensky. Effectivement, là, tout le monde vient charger son téléphone, charger tous les appareils électriques. Et nous, on faisait pareil pour le coup. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, sans électricité, sans Internet, la vie quotidienne, ce qui pour nous est extrêmement facile, la vie quotidienne devient extrêmement compliquée.
Et alors, on voit aussi ces grandes tours. On imagine la complexité de rentrer chez soi quand on est au 20e étage, parce que les ascenseurs ne fonctionnent plus.
Bah oui, tout le monde à pied, dans le noir.
Voilà, dans le noir.
Voilà. Ouais.
Et c'est l'angoisse aussi
Vous imaginez, il y a beaucoup de pertes, parce que beaucoup dans les villes qui ont été bombardées, les personnes qui restent, ce sont essentiellement les personnes âgées qui ne voulaient pas se déplacer, qui n'avaient nulle part où aller. Vous imaginez, quand vous êtes âgé, que vous avez des problèmes pour vous déplacer, que vous devez monter vos 25 étages à pied, que en plus vous allez vous retrouver dans un appartement qui pratiquement n'a plus de fenêtres, où il n'y a pas de chauffage. Le quotidien est véritablement un enfer dans certaines villes.
Et alors, certaines villes sont en plus près du front et subissent des bombardements, et donc dans ces cas-là, les populations sont obligées de descendre, voire de passer la nuit à la cave. Voyez ce reportage dans le Donbass, dans une ville qui subit des bombardements russes, de Naoufel, qui décrit le quotidien de ses habitants, Naoufel El-Kawafi et Valérie Lucas.
C'est un village fantôme du Donbass, à 1 kilomètre de la ligne de front. Une fois la nuit tombée, le bruit des détonations s'accélère, les combats s'intensifient. Les habitants doivent vite se mettre à l'abri et rentrer chez eux.
Je peux prendre les saucisses ? Qu'est-ce qu'il me reste encore ?
Dans cet immeuble vivent encore 9 personnes, comme Léna, 62 ans. Cette ancienne infirmière passe son temps désormais entre son appartement au 3e étage et les sous-sols.
On ne peut plus dormir ici. Les fenêtres sont brisées. Il fait froid et avec les bombardements, c'est trop dangereux.
Depuis 5 mois, c'est ici, dans ces caves aménagées en abri, qu'elle dort avec son mari et quelques voisins. Vitaly y a fabriqué un poêle à bois pour affronter les nuits glaciales. Danilo est le seul enfant de l'immeuble. À 15 ans, enfermé chez lui, les journées sont interminables.
Parfois, je pleure sans raison. Ça joue beaucoup, beaucoup sur moi. C'est peut-être le stress, la dépression.
À demain, bonne nuit.
Ce soir, seuls Léna et Vitaly dormiront dans l'abri, s'ils trouvent le sommeil.
Quand il y a des explosions, on n'arrive plus à dormir. On prend nos documents d'identité, on s'assoit et on attend que ça se calme.
Comme un enfant qui craint la nuit, le couple laisse allumer cette veilleuse pour se rassurer. Une nuit agitée, courte. Au petit matin, Léna, Vitaly et leurs voisins viennent constater les dégâts. Cette nuit, par chance, le quartier a été épargné.
Stéphanie Pérez, on a vu cet enfant de 15 ans qui... Qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils ne vont pas à l'école ? C'est une génération qui va être élevée dans la haine du russe et qui aura été privée d'école ?
Et c'est une génération qui, psychologiquement, souffre énormément parce que, comme vous le dites, la plupart des écoles sont fermées. Normalement, il y a beaucoup de cours. Les cours sont menés par visio, par Internet. Mais comme Internet est coupé dans beaucoup de villes ou, en tous les cas, fonctionne de façon très aléatoire, et bien, ce sont des enfants qui traînent, qui ne font pas grand-chose et qui voient leurs parents extrêmement angoissés. Nous, régulièrement, on retrouve un petit garçon qu'on a vu évoluer depuis le mois de février. C'était au départ un petit garçon qui allait plutôt bien, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait autour de lui. Et là, on l'a revu récemment, c'est un gamin qui devient très violent, qui a besoin de frapper, qui tourne en rond, qui est très agité. Et ça, c'est le cas sur tout le territoire. C'est une génération qui est sacrifiée, clairement, et qui subit un traumatisme psychologique énorme.
François Baudonnet.
En fait, Olona Zelenska a parlé, évidemment, de cette situation.
2700 en fait, écoles touchées.
Exactement, exactement. On voit dans les reportages que fait Stéphanie ou que d'autres envoyés spéciaux font sur le terrain, on voit ces écoles qui sont touchées. Mais là, elle a donné des chiffres effectivement qui sont très, très, très impressionnants. 2719 écoles détruites ou touchées, 1100 hôpitaux. Et là, on se rend compte effectivement que c'est sur tout le territoire ukrainien et que ce ne sont pas juste des points isolés dont les journalistes parleraient, mais que c'est très généralisé sur l'ensemble du territoire.
Yves Bourdillon, la population, quel effet ce genre de bombardement, de blitz, qui rappelle un peu ce qu'ont subi les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, quel effet ça peut avoir sur la population? Est-ce qu'il y a un moment où la population peut dire stop, ça suffit? Et je vous dis ça parce qu'il y avait un reportage qui avait été diffusé la semaine dernière sur France 2 qui montrait une vieille dame qui dit « Zelensky aurait dû négocier avec Poutine. Ce que nous vivons, ça devient inhumain maintenant. »
Oui, mais alors elle, peut-être qu'elle était dans une
alors,
région
elle était, dans l'Est,
de l'Ukraine, qui était plutôt pro-russe.
C'était une zone plutôt pro-russe.
Voilà, alors. Dans le Donbass, c'est moitié-moitié à peu près. Donc elle était peut-être encline à dire qu'il fallait trouver un accord avec la Russie. Mais pour répondre à votre question, la résilience des Ukrainiens est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous les peuples de l'ex-URSS, ils sont durs au mal. Bon, ils ont une histoire qui le montre. Ils ont beaucoup aussi d'entraide dans les périodes de crise et aussi de débrouillardise. On vous évoquait les antennes qu'on improvise. Tout cela, ils sont quand même assez dans l'agilité, on va dire. Et puis aussi, ils savent tenir tête. Je donne juste un exemple qui n'est pas en Ukraine, qui est au Kazakhstan. Il y a une ville, Ekibastouz, où l'électricité est coupée depuis une semaine par une panne, par moins 30 degrés. Eh bien, personne n'est mort. Alors, la situation est épouvantable, mais ils arrivent à survivre par moins 30 degrés sans chauffage. Alors, ils brûlent sans doute du bois ou ils ont du mazout. Ils se débrouillent. Donc, je ne dis pas que ça va être facile pour eux, mais ils vont tenir.
Et justement, Stéphanie Perez, comment on se comporte dans ces cas-là? Parce que chacun se dit, tiens, si ça m'arrivait, est-ce qu'on est en mode survie? Pardon, on a ses enfants à nourrir, donc c'est chacun pour sa peau. Ou est-ce qu'au contraire, le peuple, il y a un élan de solidarité, ce qui fait que justement, on fait attention au partage, à des choses comme ça. Chacun peut se demander comment il réagirait s'il était confronté à cette situation.
Nous, on est très frappés justement par ce qu'on disait, par cette résilience des Ukrainiens qui supportent ce conflit depuis fin février. Et on est frappé par cette solidarité, véritablement. Là, pour le coup, c'est pas du tout chacun pour soi. C'est pas je m'occupe de ma famille et basta. Non. Dans les immeubles, il y a une vraie coopération, une vraie solidarité. On aide les personnes âgées, on partage. Nous, on s'est retrouvés avec des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui partagent malgré tout. Voilà, quand vous êtes dans une cave le soir, oui, voilà, si vous êtes dans une cave parce qu'il y a les bombardements. Il n'y a pas forcément grand-chose à manger, mais les gens vont partager le peu qu'ils ont et avec vous comme avec le reste de l'immeuble. Il y a cette solidarité qui les rend très forts. Et pour le coup, nous, à chaque fois qu'on demande, qu'on pose la question, mais vous ne croyez pas quand même qu'il faudrait arriver à se mettre à la table des négociations? Il y a peut-être accepter de faire quelques compromis, quelques concessions. On nous dit, mais ça, il n'en est pas question. On tiendra, on souffre, mais on restera debout tant qu'on n'aura pas récupéré l'intégralité de notre territoire. Il n'est pas question de céder. Et ça, franchement, nous, ça nous a interpellés. Moi, ça m'a interpellé parce que, comme vous le disiez, moi, à chaque fois, je me dis, mais comment moi, je réagirais dans de telles circonstances? Est-ce que j'aurais cette force morale? Est-ce que j'aurais ce courage de rentrer chez moi le soir, de savoir que je n'ai pas de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité, et que ça ne va pas durer que 2 heures? Ça va durer des semaines et des semaines.
C'est le signe de quoi, François Baudonnet, ces bombardements lâches, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, de cette politique de la terre brûlée là, qu'infligent les Russes à ces pauvres Ukrainiens. Je cite le Premier ministre ukrainien qui dit « Le Kremlin comprend qu'il lui est impossible de conquérir l'Ukraine ». Au fond, ce sont des frappes de désespoir de la part des Russes.
C'est le signe en tout cas que sur le plan militaire, pour la Russie, rien ne fonctionne. Et que la Russie, Vladimir Poutine en particulier, n'arrive pas à faire ce qu'il souhaitait. Il a donc modifié sa stratégie et fait ce qu'il avait fait ailleurs. C'est-à-dire effectivement s'en prendre aux civils pour essayer de les décourager, de les terroriser et peut-être de les faire céder. Et on voit que ça ne fonctionne absolument pas. Parce que comme le disait Stéphanie, c'est au contraire, je crois, sur le terrain, tout le contraire qui se passe. Au contraire, ça augmente leur résilience, ça augmente leur envie de résister aux forces russes.
Alors Vladimir Poutine serait-il dans une impasse? Est-ce que c'est ce qui expliquerait pourquoi, mystérieusement, vendredi dernier, pour la première fois, enfin, de la surprise générale, il a parlé de trouver un accord pour sortir de ce conflit? Élément de réponse avec ce sujet de Marc de Chalvron.
Est-ce une véritable main tendue ou un nouveau coup de bluff de Vladimir Poutine? en marge d'un sommet régional au Kirghizistan, le président russe a pris tout le monde de court, en semblant ouvrir la porte à de possibles négociations.
Au final, il faudra trouver un accord. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous sommes prêts à ces arrangements. Nous sommes ouverts, mais cela nous oblige à réfléchir pour savoir à qui nous avons affaire.
Mais dans la foulée, Vladimir Poutine parle également d'un possible changement de la doctrine militaire russe. Il évoque d'éventuelles frappes préventives, ce qu'il avait pourtant exclu deux jours auparavant.
Les États-Unis envisagent potentiellement d'utiliser une frappe préventive, alors que ce n'est pas notre cas. Ça nous fait réfléchir.
Insaisissable, Vladimir Poutine, qui souffle le chaud et le froid, envisage-t-il vraiment d'engager des pourparlers ? Sur le terrain, l'armée russe est en souffrance. En deux mois, elle a perdu toutes ses zones en bleu dans l'est et le sud de l'Ukraine. La Russie peut-elle ouvrir des négociations alors que le rapport de force lui est défavorable ? Ce n'est pas la première fois que le président russe ouvre la porte à des pourparlers.
Alors Yves Bourdillon, comment interpréter tout ça ? Quelle analyse Vladimir Poutine fait-il de la situation selon vous ?
Déjà, il fait une analyse que ça se passe mal. C'est-à-dire quand même, après avoir été longtemps dans le déni, il voit bien que la ligne de front, il ne progresse plus. Il s'acharne sur Bakhmout, où il pourrait peut-être arriver enfin à prendre cette ville qui n'a pas d'importance stratégique, mais apparemment, les contre-offensives dans le sud ont l'air de progresser, en revanche. Donc, il n'a plus pris de position forte depuis la ville de Severodonetsk le 25 juin. Donc, il sait que ça se passe mal et du coup, il change de stratégie avec, comme vous le disiez, ces bombardements massifs sur les infrastructures. Pour ce qui est de cette offre de négociation, c'est totalement en trompe-l'œil parce qu'il a déjà eu, lui ou ses porte-parole, plusieurs fois des formules du genre « mais on est tout à fait prêt à négocier, c'est les Ukrainiens qui sont les méchants, qui ne veulent pas débattre, mais on a annexé 4 régions et c'est dans la Constitution et ça, on n'y touchera pas ». Donc, négocier sur quoi ? Sur rien, en fait. Donc, cette offre-là est quand même un trompe-l'œil. Et puis, tout cela dans un contexte aussi, à propos du fait que son armée piétine, il y a un autre élément qu'on a appris hier, c'est qu'il annule sa conférence de presse annuelle, et qu'en plus, normalement, la Constitution requiert qu'il fasse une annonce, une adresse annuelle à la nation, ce qu'il n'a toujours pas fait.
Donc, c'est l'équivalent un peu des vœux présidentiels de fin d'année qu'il annule.
Voilà, plus que cela même. C'est une conférence très rituelle de 3 à 4 heures où il aborde.
C'est le signe qu'il est un peu contesté ou qu'il commence à s'inquiéter de l'état de l'opinion ou de son entourage.
Quand un dictateur, les choses se passent mal, ils ont un réflexe sur le plan de la communication de repli en quelque sorte, en se disant si on me voit moins, je vais moins avoir à assumer des revers. Donc cette annulation de conférence de presse a probablement cette signification-là, que ça se passe mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer de stratégie, puisque sur le front, il ne peut plus avancer. Les bombardements sur les infrastructures, au-delà du fait que ça ne brise pas le mental ukrainien, comme d'ailleurs aucun bombardement n'a jamais brisé un peuple, même on peut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas ça qui fait changer l'issue d'une guerre. Et en plus, il arrive un peu au bout. C'est-à-dire qu'il y a des renseignements américains donc à prendre avec des pincettes, comme quoi il n'aurait plus qu'à peu près 400 missiles, donc il peut faire encore 5-6 salves d'une soixantaine de missiles, et il commence même à utiliser des bombes périmées et même des bombes, des missiles que les Ukrainiens lui avaient rendus dans le cadre d'un accord en 1995, ils lui avaient rendu leurs armes nucléaires en échange de garanties sur l'intégrité de leur territoire, dont on voit ce qu'il en a fait, et les Ukrainiens ont reçu ces missiles-là récemment, et donc ce serait un indice qu'ils puissent vraiment dans ces fonds de tiroir.
François Bedonnet, Vladimir Poutine a aussi précisé que la guerre serait longue. Quelle est sa stratégie maintenant de se dire « on va attendre et à l'usure, on finira, nous, la Grande Russie, par avoir la petite Ukraine » ou bien il se dit « il est temps quand même de se sortir de ce bourbier en limitant la casse »
Bienheureux qui peut dire la stratégie de Vladimir Poutine. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Il semble en effet qu'il essaye maintenant de parier sur le temps long. Ce qu'il voulait faire de façon très courte en quelques jours ou quelques semaines n'a pas fonctionné. Là, maintenant, on est entré dans l'hiver. Et vraisemblablement, peut-être qu'il parie sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que les opinions publiques européennes et occidentales vont finir par se lasser, que la propagande russe qui consiste à dire que les problèmes énergétiques dans l'ouest de l'Europe sont dus non pas à la guerre, mais aux sanctions européennes, que ce message qui est faux, mais va finir par passer. Donc on peut imaginer effectivement que c'est sur cette période-là qu'il se projette.
Stéphanie Pérez, et les Ukrainiens, eux, Est-ce qu'il serait prêt à engager des pourparlers avec Vladimir Poutine? Ou est-ce que non, pas du tout? Ils sont galvanisés par leur reconquête et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de bouter le Russe hors de leur territoire.
Oui, c'est ce qu'on commençait à dire tout à l'heure. Nous, en tous les cas, tous les Ukrainiens qu'on a pu rencontrer lors de notre dernière mission, il n'y en a pas un seul qui nous dit on va se mettre à une table de négociation et on va, d'accord, on va leur laisser le Donbass et la Crimée, ok. Non, non, ça, il n'en est plus question. La reconquête de Kherson a eu un effet galvanisateur extraordinaire. C'est-à-dire que puisqu'on a pu reprendre Kherson, maintenant on va reprendre la Crimée. Donc il n'est pas question de s'arrêter, bien au contraire. Et ça, franchement, nous, tout, parce qu'on a posé la question, on la pose la question. Nous, en tant qu'Européens qui commençons aussi à subir les conséquences de ce conflit, où on commence à dire, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à trouver une solution pour que tout ça s'arrête. Du côté de la population ukrainienne, à part peut-être, comme on le disait, dans l'Est, qui est un peu plus mitigé parce que une partie de la population reste en faveur de la Russie, sur le reste du territoire, il n'est pas question de céder et de négocier la moindre parcelle de territoire ukrainien avec la Russie.
François Bonnet.
Puisqu'on parlait du soutien des Occidentaux à l'Ukraine, je crois qu'effectivement, il y a quand même deux lignes rouges pour les Occidentaux. En tout cas, c'est pas clair. Il y aurait vraisemblablement pas de soutien s'il y avait une tentative claire de la part de l'Ukraine de reprendre la Crimée, parce qu'on sait que la situation en Crimée est quand même très compliquée. C'est évidemment pas le reste du pays, enfin en Ukraine, ça c'est la première chose. Et la deuxième ligne rouge, c'est si l'Ukraine, comme ça s'est fait récemment, allait bombarder,
commencer à attaquer le territoire russe.
Là, c'est voilà,
comme
c'est,
elle l'a fait avec ses voilà. drones. Hein,
c'est les deux lignes rouges où le soutien, qui pour l'instant, il faut quand même le dire, est sans faille, pourrait cesser.
Alors, en tous les cas, je vous parlais de la détermination des Ukrainiens. Je vous propose de voir ce reportage sur le front, hein, au cœur avec les militaires ukrainiens qui, comme ça rappelle, vous allez voir, ça rappelle la Première Guerre mondiale, qui creusent des tranchées pour se protéger dans le froid et la boue et pour défier l'assaillant russe. Sujet reportage dans le Donbass d'Agnès Varamian et de Soufiane Yassine.
Il faut rouler, entendre les détonations, traverser les villages détruits. Puis, dans le sentier de boue, les voitures dérapent. Enfin, cachées sous les pins, ce sont les premières positions ukrainiennes. Au centre du campement, quelques bûches et un feu qui réchauffent les soldats.
On a déjà eu du moins 15 degrés la nuit.
Un soldat nous montre ses mains, gonflées par l'humidité et le froid, mais il ne se plaint pas.
Ici, c'est du sable. Au moins, l'eau est absorbée. On ne patauge pas dans la boue.
Le camp s'est installé la veille, car le front bouge constamment. Les soldats sont encore en train de creuser leurs abris.
Oui, les Russes sont à 3-4 km d'ici.
Des trous, couverts de plastique et de branches de pin. On entre. Il faut 2 heures, disent-ils, pour les construire. À l'extérieur émergent ces tuyaux en guise de cheminée.
Alors, vous voyez, c'est plutôt chaud. Ben, y a un petit poêle, là. Et puis, on entend le générateur. Et là, des chargeurs pour les téléphones et les batteries.
Des poêles, de l'électricité. Le commandant est fier de l'ingéniosité de ses troupes. Voici, faite de mètres rubans et de bouteilles plastiques, une antenne pour les communications. Le commandant assure que les Russes n'ont pas encore repéré le campement. Pour lui, le froid ne va pas stopper la guerre.
Ça peut nous ralentir parce que c'est plus difficile de manœuvrer nos véhicules, mais on continuera.
Cette unité n'a pas eu de blessés ou de tués récemment. Le front ici est plutôt actif. Ces hommes se préparent à des températures inférieures, moins 20 degrés normalement dans quelques jours.
Moins 20 degrés. Stéphanie Pérez, c'est comme pendant la Première Guerre mondiale en Ukraine, les hommes sont sur le front et dans les villes, on a les femmes et les enfants qui survivent en pensant à leurs hommes.
Alors, il y a quelques femmes sur le front, quand même, il faut le préciser, mais effectivement, dans les villes, on trouve essentiellement les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et globalement, nous, ce qui nous frappe à chaque fois, c'est que quand on va justement à leur rencontre, qu'on leur demande quelles sont leurs conditions de vie, et comment ils supportent tout ça, à chaque fois on nous dit, nous, on ne va pas trop se plaindre parce qu'on a nos hommes qui sont à l'avant. Il ne faut surtout pas que nos pensées négatives puissent leur parvenir. Donc nous, on va faire le boulot à l'arrière, on va maintenir le moral. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi entendu, par exemple, dans un de ces fameux îlots de résilience où les gens viennent se brancher. On posait la question à des jeunes étudiants qui essayaient tant bien que mal de suivre des cours par visio, un peu brinque-ballant. Et quand on leur dit, mais quand même, bon, pour vos études, pour la suite, ça ne va pas être facile. Ils nous disent non, mais nous on va pas se plaindre parce que nous on est à l'arrière, on est finalement confortablement assis dans le froid avec nos anoraks sous une tente, mais on n'est pas à l'avant sur le front dans ces tranchées pleines de boue sous la neige. Donc surtout, c'est pas à nous de nous plaindre et on ne veut surtout pas que la moindre pensée négative puisse leur parvenir parce qu'il faut pas impacter leur morale.
François Bonnet,
oui. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve ça effectivement extrêmement frappant, cette capacité de résilience et qui montre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la stratégie de Vladimir Poutine de décourager, de terroriser ce peuple ukrainien ne fonctionne pas.
Et alors, Yves Bourdillon, on voit les conditions très spartiates hein, des militaires ukrainiens, mais ils se battent pour leur pays, ils ont la détermination. Sauf qu'on se dit probablement qu'en face, les Russes vivent dans les mêmes conditions, dans les mêmes tranchées, et on se demande si, chez eux, le moral et la détermination sont au diapason.
A priori, elle n'est pas au diapason. Déjà, il y a probablement une petite différence d'équipement, c'est-à-dire que l'Ukraine se bat alimentée par les plus grandes puissances financières et économiques du monde. C'est-à-dire que le PNB cumulé de ses alliés, c'est 52% du PIB mondial. Donc, je pense qu'il ne manque pas d'équipement chaud, alors que la Russie est à peu près seule. Enfin, bon, l'Iran lui fournit des drones, mais c'est tout. Donc, déjà, les soldats sont moins équipés. Et surtout, comme vous le dites, eux, ils ne se battent pas pour leur patrie, pour leur existence. Enfin, ils se battent au nom de la patrie, pour ceux qui croient le discours du Kremlin. Mais les Ukrainiens, eux,
ils battent le moral côté russe dans les tranchées.
C'est la même chose, oui. Mais, les Ukrainiens, ils savent que s'ils perdent, ils disparaissent en tant que nation. Les Russes, on leur a dit que c'est un combat existentiel, c'est ce que dit le Kremlin. Mais enfin, certains des soldats qui sont en première ligne viennent de régions qui sont très loin du front, d'ailleurs, et qui certains peuvent se demander ce qu'ils font là, effectivement. Donc il y a certainement une différence de motivation. Et puis il faut reconnaître aussi que les revers militaires sont quand même, en grande majorité, beaucoup plus du côté russe que du côté ukrainien. Il y en a eu du côté ukrainien, mais c'est quand même la Russie qui croyait avoir la deuxième armée du monde qui est en train de perdre, et donc ça pèse certainement aussi sur le moral.
Alors, qui dit combat, dit mort et dit blessé. On parlait tout à l'heure de Bakhmout, justement. Je vous propose de voir ce reportage dans un hôpital à côté de Bakhmout. À Bakhmout, vous allez le voir, qui est débordé par l'afflux de militaires et de civils blessés, sujet de Lise Vogel.
À toute vitesse, nous entrons dans Bakhmout. Partout, des maisons vides, détruites par les tirs d'artillerie. Le bruit des canons résonne au loin. Impitoyable, l'ennemi russe détruit la ville. Parmi les civières et les corps ensanglantés, ses docteurs tentent de sauver des vies. Un soldat gravement blessé arrive. Les médecins l'emmènent dans ce bloc opératoire de fortune. Ce combattant est en état de mort clinique. Ses jambes et ses bras ont été déchiquetés par une explosion. Les soignants ont très peu de temps pour le réanimer. Le soldat a perdu beaucoup de sang. Son cœur est en train de lâcher. Il faut le transfuser en urgence. Alors les médecins donnent leur propre sang.
Nous devons sauver nos gars.
Encore quelques secondes et cette soignante peut récupérer la précieuse poche. À la hâte, elle regagne la salle d'opération. D'autres blessés arrivent, encore et encore. Au cœur de ce chaos, l'équipe médicale ne laisse rien paraître de son désarroi. Derrière ce mur, il y a deux hommes à sauver. Ici, un autre est en réanimation. Au même moment, une femme est transportée sur une civière. Les sauveteurs viennent de la sortir des décombres. Juste à côté, alors que les soignants réaniment deux soldats, nous entendons enfin ces mots tant attendus.
Ils respirent.
Ici, l'horreur et l'espoir se côtoient. À l'intérieur de cet hôpital, nous entendons constamment les tirs d'artillerie. L'immeuble tremble. La destruction est partout, pendant que les médecins tentent de sauver des vies. Des douzaines de vies chaque jour.
Stéphanie Pérez, quand on est journaliste français, qui a... On prend l'avion, on débarque, on se retrouve là-dedans. Il y a des images qui vous des horreurs de la guerre qui vous soulèvent le cœur?
Ah, il y a des images et des témoignages, oui, qui nous restent. Nous, récemment, on a fait un reportage sur toutes ces gueules cassées, justement, tous ces civils et ces militaires qui se retrouvent défigurés.
On a diffusé.
Parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont des gens, moi, leur témoignage me touche énormément parce que ce sont des gens, quand ils se regardent maintenant dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus. Et ce sont des milliers de civils, 10 000 civils, selon le dernier chiffre de l'ONU à peu près, qui au moins ont été touchés, ont été blessés. Ce sont des gens dont la vie est brisée. Alors c'est le propre des guerres, hein, de détruire des vies. Mais c'est sûr que là, tout ça se passe à 3 heures de Paris. Ce sont nos voisins et ça continue. Et des témoignages comme ça, on en a rencontré des dizaines. Tous ces enfants qui sont traumatisés, ça forcément...
À Kherson, on a découvert qu'il y avait des salles de torture. Hein. Vous y étiez. Vous avez recueilli des témoignages.
Nous, on nous a raconté l'horreur. Le propre de la torture, hein, mais des sévices qui sont clairement inhumains. Et quand on vous explique, on a lâché les chiens sur vous pour vous ronger les chairs. Quand on vous explique, vous décrit les sévices à l'électricité, à l'eau, les masques à gaz. Il y a une panoplie dans l'horreur qui est impensable. Et forcément, quand vous entendez ces témoignages, parce que les gens nous livrent, ils ont besoin de parler pour certains. Donc on est les premiers à qui ils racontent ce qui leur est arrivé. Forcément, nous, on reçoit ça sans filtre. Donc vous ne sortez pas indemne de ces entretiens.
Yves Bourdillon, des morts et des blessés, il y en a aussi. Et en même nombre, hein, côté russe. Ça, pour le coup, ça pourrait faire basculer la guerre, parce qu'on sait que les mères russes, et en Afghanistan et en Tchétchénie, elles avaient obtenu que la guerre s'arrête quand elles récupéraient le cercueil de leurs enfants.
En théorie, oui, parce qu'effectivement, les babouchkas ou les mères de famille sont des gens très respectés en Russie. Et si elles s'organisent et qu'elles protestent, elles ont un impact. C'est un des rares corps constitués de la société russe que le Kremlin redoute. On l'avait d'ailleurs vu il y a quelques années lors de manifestations sur des aspects sociaux. Mais il faut reconnaître que pour l'instant, ça n'a pas un très fort impact, puisque vous citiez l'Afghanistan. Il y a eu 13 000 morts en Afghanistan en 10 ans. Et ça avait contribué, avec d'autres éléments, à la chute de l'URSS. Là, on en est probablement au double, voire au triple, en nombre de morts. Le chancelier allemand a dit même 100 000, mais je pense qu'il confondait les morts et les blessés. En tout cas, on est déjà, en 10 mois de guerre, à 2 ou 3 fois l'Afghanistan. Et pour l'instant, ça n'a pas eu l'impact qu'avaient eu les mères de soldats en Afghanistan. Donc le régime arrive quand même à verrouiller par diverses techniques de propagande, et aussi peut-être parce que les soldats qui meurent viennent de régions périphériques, pas très bien représentées politiquement, et qui donc ont du mal à mobiliser contre le pouvoir.
Pour ça, vous donnez, on parlait tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. Incroyable de se dire qu'au XXIe siècle, on a encore des scènes de torture, des boucheries, et qu'on creuse des tranchées pour se faire la guerre.
Oui, c'est important d'ailleurs de le dire, ça. Et de le montrer, et parce que sinon la guerre pourrait rester quelque chose d'un peu lointain, même si ça se passe très proche de nous. Là, le travail que font les reporters de terrain, eh bien, permet de montrer ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire ici que le travail qui est fait par les médias français en général et par France Télévisions en particulier est salué de manière unanime, parce qu'effectivement, il y a une couverture qui donne bien état de ce qui se passe sur la réalité du terrain en Ukraine.
Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. En leur nom. Bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée sur France Info.